dire dans le deuxième au Corinthien, le verset dans le chapitre 3 et 4, verset 2, vous êtes, vous, notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ, dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair du cœur. Quand nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Verset 17. Or le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, nous tous, contemplant la face découverte, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère comme ayant obtenu miséricorde, nous ne nous lassons point, mais nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret, ne marchant point avec ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité, nous recommandons nous-mêmes à toute conscience d'homme devant Dieu. Et si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, dans lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Car c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres la lumière resplendit, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Étant dans la tribulation de toute manière, mais non pas réduits à l'étroit, dans la perplexité, mais non pas sans ressources, persécuté, mais non pas abandonné, abattu, mais ne périssant pas, portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. Or, ayant le même esprit de foi selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi aussi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous présentera avec vous. Car toutes choses sont pour vous, afin que la grâce abondante par le moyen de plusieurs multiplie les actions de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne nous lassons point. Mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour, car notre légère tribulation d'un moment opère pour nous en mesure surabondante un poids éternel de gloire, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Dans ce chapitre 3, déjà l'apôtre met en opposition le ministère de la loi et le ministère de la grâce. Nous n'avons pas lu dans les versets, mais on peut jeter un coup d'œil. Commençons de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Nous avons besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation. Nous savons que le ministère de l'apôtre était très contesté. Est très contesté, surtout par les judaïsants, surtout par ceux qui voulaient mettre même les chrétiens, qui voulaient les mettre sous la loi. Et l'apôtre devait résister fermement pour maintenir la vérité de l'évangile de la grâce de Dieu. C'est toujours d'actualité, vous savez. C'est toujours la lutte, on peut dire, entre le salut entièrement gratuit et le salut qu'il faut acquérir. Et grâce à Dieu, jusqu'alors, au lieu des frères, on a maintenu la vérité quant au salut entièrement gratuit par l'œuvre du Seigneur Jésus. On ne peut pas en dire de tous les milieux, même évangéliques, qui nous entourent. Et nous pouvons quelquefois avoir besoin de redresser les choses chez des frères qui sont dans ces milieux-là, n'est-ce pas, et qui ont la crainte de perdre leur salut, ou qui ne savent même pas s'ils sont certains d'être sauvés du jour. On en rencontre tous les jours, et il est important d'être soi-même très au clair pour pouvoir ainsi aider ceux qui nous entourent. J'espère qu'ici, tout le monde est certain. Salut fondé sur l'œuvre de Christ et non pas fondé sur vos efforts. Voyons comment l'apôtre a pu combattre pour cela, n'est-ce pas? Parce que c'est la tendance naturelle du cœur de l'homme, et du cœur naturel de l'homme, n'est-ce pas, de faire un échange, avec Dieu. Si je me conduis bien, tu me béniras, tu me sauveras, je serai sauvé. Et si je tombe, je suis puni, forcément, je suis perdu. Et nous avons besoin même d'être libérés. Le salut est fondé sur Christ et son œuvre accomplie une fois pour toutes, et nous ne pouvons rien y ajouter. Et si nous avons cru, nous ne pouvons rien ôter non plus. Nous ne sommes pas destinés à la perdition. Si nous avons cru, nous sommes destinés à la vie éternelle dans la maison du Père. Il n'y a rien qui peut nous empêcher, si nous avons cru au Seigneur Jésus, mort et ressuscité, mort pour nos péchés, pour mes péchés, et ressuscité pour ma justification, eh bien, rien ne peut m'empêcher d'entrer dans la maison du Père. Il viendra chercher tous ceux qui sont à lui. Nous disions déjà hier, il faut toujours faire soigneusement la distinction entre le salut qui est inconditionnel pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus et la responsabilité de celui qui est sauvé et qui doit le manifester. Et qui doit montrer qu'il est avec. Alors, c'est une autre chose, n'est-ce pas? Ce sont deux choses différentes qu'il faut toujours distinguer, et parfois, il faut aussi en donner l'explication à des chrétiens qui nous entourent et qui n'ont pas été enseignés dans ces choses. Là, l'apôtre est quand même satisfait des Corinthiens, puisque nous voyons qu'il veut dire au verset 2, vous êtes, vous, notre lettre écrite dans nos cœurs connus et lus, dans nos cœurs connus et lus de tous les hommes. Car vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ. S'il dit, avons-nous besoin d'être de recommandation, c'est par ironie. L'apôtre était à l'origine de l'assemblée de Corinthe. Avait-il besoin d'une lettre de recommandation? Certains avaient besoin, bien sûr. On a toujours besoin de lettres de recommandation. Lorsqu'un chrétien n'est pas connu, qu'il veut aller dans un autre milieu, et qu'il n'y est pas connu dans un autre endroit, n'est-ce pas, si je veux aller dans une assemblée où je ne suis pas connu, n'est-ce pas, je veux aller en Argentine l'année dernière, on va donner des lettres de recommandation pour ces assemblées-là. Et c'est selon l'Écriture. Voyons qu'Apollos, lorsqu'il a voulu passer en Achaïe, les frères écrivirent. Ils écrivirent pour qu'on reçoive Apollos librement, pour qu'il puisse exercer son ministère librement. Frère écrivir à ce livre. Et l'apôtre, lui, bien sûr, dit ça par ironie. Il était à l'origine de l'assemblée, on le connaissait pour être un apôtre, il n'avait certes plus besoin de lettre de recommandation. Mais, étant donné qu'il était discuté quant à son ministère, étant donné que certains voulaient s'opposer à l'évangile qu'il annonçait, l'évangile de la grâce de Dieu, alors il pouvait dire cela. Avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation? Vous êtes vous la lettre. Vous êtes vous la lettre. Il était à l'origine, donc il était à l'origine de la conversion des Corinthiens et du rassemblement des Corinthiens. Vous êtes vous la lettre de Christ dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Voilà à quoi reconnaissez les Corinthiens et l'Assemblée des Corinthiens. L'Esprit du Dieu vivant y agissait. L'Esprit du Dieu vivant était dans les cœurs de tous ceux qui avaient la vie. C'est vrai aussi pour vous. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, le Saint-Esprit est aussi dans le cœur de tous ceux qui ont la vie. Et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui marque la différence entre l'enfant de Dieu et l'homme du monde, même religieux, même très religieux, même assis sur les bancs de la Réunion et qui ne serait pas au Seigneur. La différence, c'est la présence du Saint-Esprit dans le cœur. Et quand le Saint-Esprit se trouve dans un homme, eh bien, on en voit quelque chose. Forcément. Il se manifeste, forcément. Quand on ne voit pas les fruits de l'Esprit dans un homme qui dit être un frère, on peut douter qu'il soit un frère. On a le droit de douter. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas sauvé. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Mais on a le droit de douter, parce qu'il dit aussi, vous connaîtrez là. S'il n'y a pas de fruit, vous ne pouvez pas reconnaître l'arbre. Vous ne pouvez pas reconnaître la nature s'il n'y a pas de fruit, n'est-ce pas? Le fruit de l'Esprit, nous connaissons l'amour, la joie, la paix, la bienveillance. Il y a 9 caractères dans les Galates, il y a bien d'autres dans les Écritures. Et si on ne voit pas de résultat, la présence de l'Esprit dans celui qui dit qu'il a cru, nous pouvons douter qu'il ne soit pas. Et prenons garde à cela. Prenons garde à cela, n'est-ce pas? Nous avons été obligés, dans certaines assemblées, n'est-ce pas, d'exercer la discipline contre certains qu'on avait admis bien trop légèrement, sans avoir vu vraiment les fruits. Et on va prendre garde. Autour de la table sont rassemblés ceux qui sont membres du corps, c'est-à-dire qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont scellés d'esprit, qui savent qu'ils sont sauvés, qui sont scellés d'esprit, et qui sont réunis en un seul corps par le baptême du Saint-Esprit. N'allons pas trop vite, ne soyons pas trop légers. Enfin, 6 mois après, on est obligé d'exercer des choses humiliantes, des disciplines humiliantes, alors que si nous avions pris garde, si nous avions attendu, si nous avions pris patience pour voir les fruits de l'Esprit, on aurait eu plus de certitude, plus d'assurance pour recevoir. Nous avons besoin de prendre garde à cela aussi. Ce sont des choses que nous connaissons, bien entendu. Toutefois, il faut les rappeler, l'apôtre aussi parlait de choses que les Corinthiens, ou par exemple les Galates, les Philippiens connaissaient, les Philippiens en particulier, connaissaient, il peut leur dire, vous écrire les mêmes choses, mais pas pénibles, et c'est votre sûreté. Alors, il ne faut pas hésiter à rappeler les mêmes choses, parce que nos esprits sont oublieux, on prend des habitudes, on, au lieu de se laisser entraîner par cet esprit, on se laisse entraîner quelquefois par un esprit de famille, par exemple, un esprit d'amitié, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu est saint, et Dieu est juste, et Dieu, c'est celui qui doit être le centre de la vie, qui est le centre de la vie, qui est versé dans le cœur du croyant. Alors, on en garde à ces choses. Ici, l'apôtre était satisfait, il avait là du résultat à son service. La preuve, c'était l'assemblée des Corinthiens. Et puis, il peut parler donc de la lettre écrite, non avec une langue, mais par l'esprit du vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair du cœur. Alors, il revient sur ce qu'il avait toujours à cœur, à savoir que la loi donnée à Moïse était passée. La dispensation de la loi était passée. Maintenant, il s'agissait d'une loi, certes, ou d'une nouvelle alliance, mais écrite sur les tables de chair du cœur. Et c'est toute la différence entre la loi et la grâce de Dieu. Nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu, donc nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Là, nous avons aussi à faire attention à ce verset. Donc, que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes. Et c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Nous ne nous mesurons pas, l'apôtre Paul. Nous avons bien conscience que, et son appel et son service le placent nettement au-dessus de nous. Eh bien, l'apôtre Paul pouvait dire, non, que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose, mais comme de nous-mêmes. Non, il n'aurait pas voulu penser quelque chose comme de lui-même. Il n'aurait pas voulu, n'est-ce pas? Leur capacité vient de Dieu. Et pour nous, prenons regarde aussi, elles peuvent vouloir mettre en avant nos propres pensées, mais à simplement servir les pensées de Dieu, à simplement transmettre la pensée de Dieu. Nous savons que dans toutes les épîtres, donc Paul peut dire, n'est-ce pas, ce que c'est la parole de Dieu, comme vous l'avez reçue, on trouve ça quelque part, n'est-ce pas? Félicite que les croyants avaient reçu sa parole, non la parole de l'homme, mais la parole de Dieu, ce qu'elle est en vérité. À un endroit seulement, il dit, il donne son avis parce qu'il n'a pas reçu d'ordre du Seigneur. Les Corinthiens, au chapitre 7, à propos de ceux qui veulent rester sans se marier. Il donne son avis. Il n'a pas d'ordre du Seigneur. Il donne son avis comme étant lui aussi, comme ayant lui aussi reçu l'Esprit pour être fidèle. Mais c'est remarquable, cette distinction entre la parole de Dieu, toutes les épîtres de Paul, la parole de Dieu, et ces quelques versets où il donne son avis, un avis fidèle, un avis qui est approuvé de Dieu, puisque d'abord ça a été conservé dans l'Écriture, mais néanmoins l'avis de Paul. Quand il dit « ceux qui ne se marient pas font mieux », de Paul. Un avis fidèle, un avis que Dieu lui permet de donner. C'est remarquable que le Seigneur ait conservé cela et nous fait voir ainsi que toutes les épîtres sont paroles de Dieu, sans distinction, n'est-ce pas, à part ce verset dont je parle, alors toutes les épîtres sont paroles de Dieu. Et nous devons les prendre comme paroles de Dieu. C'est sérieux, parce que on risque de prendre à la légère les épîtres de Paul. On risque, parmi nous, grâce à Dieu, l'enseignement a été maintenu, et c'est un privilège que nous avons. Mais dans bien d'autres endroits, dans bien d'autres milieux, les épîtres de Paul, c'est Paul qui les a écrits. Dans les évangiles, c'est le Seigneur qui parle, mais les épîtres, c'est Paul. Les évangiles n'ont pas été écrits par le Seigneur. Enfin, ceux que les évangélistes ont rapporté les paroles du Seigneur, ils les ont rapportées comme par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Luc a dit comme le Seigneur, on ne sait rien, n'est-ce pas? Marc peut-être est connu, mais bon, ils l'ont rapporté par l'Esprit. La conversation entre le brigand et le Seigneur qui est rapportée dans Luc, comment Luc a-t-il su? Sinon, par l'Esprit. La naissance miraculeuse, non, c'est par l'Esprit. Tout était écrit par le Saint-Esprit, les évangiles sont écrits par le Saint-Esprit, et les épîtres par l'Esprit. C'est le même Esprit partout, et nous pourrions dire, c'est le même Esprit de la Genèse à l'Apocalypse, c'est le même Esprit qui a écrit l'Écriture. C'est la parole de Dieu, le premier mot de la Genèse au dernier mot de l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu, écrite par Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de maintenir cette vérité, pour contrer tout ce qui peut se dire ici et là, et qui risque d'influencer aussi parmi nous, qui risque de nous influencer en faisant une distinction entre ce que Paul a dit, ce que Paul a écrit, et ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, on fait une distinction. S'il y a d'apparentes oppositions, ça ne vient pas de l'Écriture, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient soit de notre incompréhension. Je peux dire que ça vient toujours d'incompréhension. Parce que les temps, le Seigneur a parlé dans les évangiles, a parlé au peuple juif, c'était un temps. Il y a eu après la Pentecôte. L'apôtre Paul vient après la Pentecôte pour parler à l'Église. C'est un autre temps. Et c'est pas forcément le même discours qui s'adapte à l'un et à l'autre. Le Saint-Esprit parle aux hommes, mais parle aux hommes selon le besoin et selon le besoin du moment. Mais revenons à notre texte, alors nous voyons que l'apôtre, lui, ne se considérait pas capable de penser. Puissions-nous être comme lui et chercher nos pensées, nourrir nos pensées de celles du Seigneur. Notre capacité vient de Dieu, c'est le verset 6, pour être des ministres de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Les ministres, ce sont ceux qui administrent. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés, quels que nous soyons, ici, frères ou sœurs, nous sommes appelés à administrer ce que le Seigneur nous a donné. La connaissance que le Seigneur nous a donnée, par son Esprit et par sa parole, nous sommes appelés à l'administrer. Il peut arriver que nous ayons un mot à dire à notre voisin, que nous ayons quelque chose à redresser chez un frère ou chez une amie, n'est-ce pas, parce que nous connaissons la vérité et nous avons aussi, nous sommes aussi responsables de l'administrer. Eh bien, nous sommes ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais de l'esprit vit. La lettre, c'est la loi. C'est la loi écrite, donnée à Moïse. Et la loi s'adressait à l'homme d'âge. La loi était bonne en elle-même. Le commandement est saint, juste et bon, pour les Romains. Seulement, la loi s'appliquait à des hommes qui n'étaient pas capables de l'accomplir. Alors, au lieu de sauver, fait ces choses et qui vivra par elles, l'homme se trouvait là incapable de les faire, ces choses. Alors, au lieu de sauver, la lettre tue, elle condamnait. Car si tu ne les fais pas, bon, c'était la mort, n'est-ce pas? Alors, elle condamnait plutôt que de sauver. La lettre tue. L'esprit vivifie. Et nous avons reçu. Le croyant maintenant reçoit le Saint-Esprit, la vie qui était et qui vient de Dieu, il reçoit, et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui lui permet de vivre cette vie. Est-ce qu'il n'y a plus de commandements? Est-ce qu'il n'y a plus de règles? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Les épîtres sont remplies de commandements. N'est-ce pas? Des choses qu'il faut éviter, des choses qu'il faut rejeter, des choses qu'il faut accomplir. Commandement. Ne serait-ce que ce commandement qui est donné, le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau, que vous aimiez les uns les autres. Un commandement, n'est-ce pas? Et le commandement qui est développé tout au long des épîtres. Oui, mais c'est plus le commandement qui, si on l'accomplit, va sauver. C'est le commandement qui s'adresse à des hommes qui sont sauvés. Et c'est toute la différence avec la loi. La loi disait, bon, ben, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et puis tu aimeras ton prochain. Si tu fais ces choses, tu vivras. Dieu, maintenant, nous dit, eh bien, voilà, le Seigneur est mort pour toutes vos infidélités, toutes vos infractions, n'est-ce pas, tous vos péchés. Celui qui croit en lui a la vie. Alors, tu as la vie. Alors, maintenant, puisque tu as la vie, il s'agit de vivre cette vie. Et cette vie nous conduit, puisque c'est la vie qui vient de Dieu, à nous conduire à vivre selon l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu. Le commandement est toujours le même. Quelle différence y a-t-il entre tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou bien je vous donne un commandement nouveau, que vous aimiez les uns les autres? C'est bien toujours l'amour en action à l'égard de celui qui est à côté de moi. N'est-ce pas? Eh bien, oui, mais toute la différence est là. Il y a maintenant capacité. La capacité par l'Esprit. Non pas par le cœur naturel. Le cœur naturel ne change pas. La chair ne change pas. Mais par le Saint-Esprit qui demeure en croyant, par cette nouvelle nature que Dieu lui a donnée lorsqu'il a cru, nouvelle naissance, enfin, eh bien, il a la capacité maintenant d'aimer. C'est pourquoi l'apôtre Jean, n'est-ce pas, disons, ce verset dans la première épître de Jean, au chapitre 5, qui peut surprendre sur le moment, et qui pourtant est à comprendre, chapitre 5, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Ses commandements ne sont pas pénibles. La loi était pénible. La loi était pénible et nous voyons l'homme de Romains 7, par exemple, n'est-ce pas? Lutter tout au long de ce chapitre pour vouloir faire le bien qu'il ne peut pas faire, faire le mal qu'il ne veut pas faire, une conscience réveillée mais qui se place sous la loi, et la loi était pénible. Elle s'adressait à un homme dans la chair qui n'avait pas la capacité de l'accomplir, elle était pénible. Et maintenant, ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que les commandements s'adressent à des hommes qui sont capables de les accomplir. Aimer Dieu. Garder ses commandements, c'est la même chose, n'est-ce pas? Si on aime le Seigneur, on obéit au Seigneur. Bon. Alors, c'est ici, Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu que nous gardions ses commandements. C'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements. Et les commandements ne sont pas pénibles. Bien sûr, quelquefois, ils peuvent être pénibles à l'affection naturelle. Ils peuvent être pénibles si on donne de l'importance à l'ordre humain. Peut-être pénible si on veut continuer sa propre volonté. Il y a quiconque aime celui qui est engendré, mais aussi celui qui est engendré, donc c'est aimer le frère, celui qui est né de Dieu. Et si le frère prend un mauvais chemin, est-ce que je dois le suivre ou pas? Il est bien évident que non. Dans une famille de la terre, ce serait la même évidence. N'est-ce pas, si mon frère devient un malfaiteur ou un truand, il est bien évident que je ne suis pas obligé de le suivre, hein, et qu'au contraire, il va être rejeté de la maison, hein, je ne suivrai pas. Mais c'est mon frère, quand même, puisqu'il est né du même père. Mon frère, c'est bien pour les croyants, c'est pareil. Un frère est né du même père, n'est-ce pas, et voici, alors nous devons aimer les frères, si le frère prend le chemin. Comment alors reconnaître que nous aimons les frères? Eh bien, si nous aimons Dieu, et comment reconnaître que nous aimons Dieu quand nous obéissons à ses commandements? Il y a là une chose très simple. Obéir à ses commandements, c'est manifester de l'amour pour Dieu, et c'est en même temps manifester de l'amour pour les frères. C'est en même temps. Ses commandements ne sont pas pénibles. Si nous sommes soumis à la puissance de son esprit, les commandements ne sont pas pénibles. Peut-être y aura-t-il dans nos cœurs quelques difficultés parce que le chemin du Seigneur, que le Seigneur veut que nous suivions, peut nous amener à briser des liens, à aller à l'encontre de ce que nos cœurs naturels auraient aimé, bien entendu, mais c'est vrai pour tous les croyants tout au long de leur vie, et pas seulement parce que nous sommes obligés d'obéir sur un. Nous parlons ici d'un terrain de discipline, c'est pas obligé, c'est vrai tout au long de la vie, nous avons tout au long de la vie des choix à faire. Tout le monde a dit, l'apôtre avait des choix à faire. Dans le texte que nous avons lu, il dit était en perplexité. S'il était en perplexité, c'est qu'il avait devant lui un choix. Et il ne savait pas encore quelle partie il allait prendre. Hein. En perplexité, est-ce que nous ne sommes pas souvent en perplexité? Enfin, à savoir, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu me demande? Et donc, pas sans recours. Pas sans recours, parce qu'il mettait de côté sa propre volonté. Alors, il n'était pas sans recours. Mettant de côté sa propre volonté, Dieu peut le conduire dans le vrai chemin. Je pense à ce passage des Actes où nous trouvons l'apôtre en Bithynie, exactement, c'était en Galatie, et il avait au nord la Bithynie, il avait au sud l'Asie, c'était la Turquie actuelle. Bon, puisqu'il évangélisait, ben évangélisait partout, ce qui est courant de nos jours maintenant avec le système, on évangélisait systématiquement. Dans un village, on a donné des traités partout, 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 et depuis le temps que la France est inondée de traités, on ne peut pas dire qu'il y ait des fous qui sont convertis. On ne peut pas le dire, n'est-ce pas? Dieu le sait. Je ne dis pas du tout qu'il ne fallait pas laisser les traités. Je vais attirer l'attention sur la technique de l'apôtre. L'apôtre, donc, venait en Asie. Là, le Saint-Esprit l'empêche. Comment? Nous ne savons pas. Enfin, le Saint-Esprit l'a empêché. Alors, il va aller en Bithynie, il est au nord. Ah, l'Esprit de Jésus ne lui permet pas. Là, c'est pareil. Comment l'Esprit de Jésus va-t-il parler? Il n'en sait rien. Mais l'Esprit de Jésus ne lui permet pas. Bien, alors, il reste là. Il attend que le chemin s'ouvre. Il attend et il a la révélation d'un homme qui est en Macédoine et qui lui dit, bon, dans un songe, viens, passe vers nous. Il passe donc de l'autre côté de la mer pour aller en Macédoine. Ce n'était pas un travail systématique, c'était un travail selon l'Esprit de Dieu. Et ça, nous risquons de le perdre de vue, ce n'est pas un travail systématique. Philippe était en Samarie, bon, il y avait un réveil remarquable. Le Seigneur lui dit, va sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est désert. Non, je ne dis pas qu'il y a un lieu sur le chemin de Gaza. Il dit, il est désert. Va sur le chemin de Jérusalem à Gaza, qui est désert. Et Philippe, discute pas. Il va sur un chemin désert. Il y avait le nuque. Ah oui, il y avait le nuque. Le Seigneur le savait, mais Philippe ne le savait pas. Et voilà, donc des hommes qui sont à la disposition du Saint-Esprit. Et leur travail n'est pas un travail systématique, c'est un travail dominé, conduit par le Saint-Esprit. Aussi bien l'apôtre Paul, vous connaissez ses textes, n'est-ce pas, on peut tous arriver à Philippe de Macédoine, il rencontre qui Lydie, la marchande de pourpoint, qui était de la ville de Thyatire. Thyatire, c'était en Asie. S'il était allé en Asie, systématiquement, il n'aurait pas rencontré Lydie, la marchande de pourpoint, qui était à ce moment-là, sans doute pour son commerce, parce que je ne serai pas encore en détail, mais sans doute pour son commerce, elle se trouvait. Et ça a été le début de l'assemblée de Philippe, l'assemblée de Philippe. C'est elle qui a ouvert son cœur à la parole de Paul, c'est le début de l'assemblée de Philippe. Dieu sait où ce serviteur doit être. Dieu sait la parole du serviteur doit être. Dieu connaît les choses. Le serviteur est vu comme Paul, mais il est là. Il marche conduit par l'esprit autant que possible, puisqu'il parle de perplexité, c'est que ce n'était pas toujours très évident pour lui. Et et ça, c'est l'action de l'esprit qui vivifie au verset 6 de notre chapitre 3. Ça. Il y avait dans la loi, les choses étaient réglées, elles devaient se faire automatiquement, systématiquement, et puis maintenant c'est la vie, l'esprit de vie, pas de règle. Moi j'étais le premier, j'ai voulu trahir, un jour j'ai acheté un livre. Bon, ben, c'est très clair, les dessins sur le livre étaient très clairs. Ça, c'était... Alors c'est tout, j'ai bien regardé mon dessin, j'ai bien étudié, je suis allé vers le premier avec mon secrétaire. Il n'y avait pas un qui était comme sur le dessin. Pas un. C'était la vie, hein. C'était plus le dessin. Hein. C'était la vie. Ils avaient poussé selon leur propre volonté dans tous les sens. Et moi je ne retrouvais pas mon dessin sur le terrain, n'est-ce pas? Là c'est ça. L'esprit de vie dans le croyant. L'esprit se développe, lui, il agit dans le croyant. Il pousse le croyant ici, il le pousse là, il le pousse ailleurs. Il lui fait dire une parole ici, il lui fait dire une parole là. Il lui fait prendre cette attitude dans un contexte. Il lui fait prendre une autre attitude dans un contexte qui peut paraître le même, mais qui n'est pas, parce qu'il n'y a pas de contexte pareil. Nous avons à prendre garde à cela, à être disponible pour le Saint-Esprit. Dans les versets suivants, dans la parenthèse que je n'ai pas lue, parce que verset 17, je rejoins le chapitre 6, l'esprit, toutefois, il y a une chose qui se dérèse aussi au premier chef, à savoir ce fait que lorsque Moïse avait parlé avec l'Éternel, bien, il me dit, voilà, il descendait sur le sujet, il parlait, il transmettait. Il avait entendu la bouche de l'Éternel, il avait transmuté aux Hébreux, et son visage resplendissait. Et il nous a dit, Moïse ne savait pas, ils ont monté le sabot dans l'Exode 34, au verset 29. Et il arriva que lorsque Moïse descendit de la montagne de Sinaï, et les deux tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Et Aaron et puis Israël dit à Moïse, voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignirent de s'approcher de lui. Et Moïse les appela, et Aaron et tous les princes de l'assemblée revinrent auprès de lui, et Moïse leur parla. Et après cela, tous les fils d'Israël s'approchèrent, et leur commanda tout ce que l'Éternel lui avait dit sur la montagne de Sinaï. Et Moïse cessa de parler avec eux. Or, il avait mis un voile sur son visage. Et lorsque Moïse entrait devant l'Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Puis il sortait et disait aux fils d'Israël ce qu'il avait été commandé. Et les fils d'Israël voyaient le visage de Moïse, que la peau du visage de Moïse rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Regardez comme la parole de Dieu est admirable. Il faut qu'on arrive au Corinthiens pour savoir pourquoi Moïse mettait un voile sur son visage. Parce que c'était la gloire qui accompagnait le don de la loi au peuple. Et c'était un temps qui allait passer. C'était une gloire qui était destinée à passer. La loi était conducteur, pédagogue, jusqu'à Christ. Christ étant venu, la loi n'avait plus de rôle à jouer, c'est passé. Alors, c'est ce que l'apôtre rappelle dans cette parenthèse du chapitre que nous avons lu, qu'il s'agissait d'une gloire qui passait. Moïse ne savait pas que l'apôtre envisage rayonnait. c'est important de souligner ce passage. Il parlait avec l'Éternel, et du fait de parler avec l'Éternel, face à face, comme avec un ami, comme on le trouve en d'autres endroits, n'est-ce pas, il voyait même une forme. Eh bien, la peau de son visage arrivait. Vraiment, c'était une gloire passagère. Alors l'apôtre fait la comparaison entre ce qui devait prendre fin, au verset 14, comme on l'a dit, mais on peut lire maintenant, au verset 14, leur entendement et l'entendement des Juifs ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure sans être levé, lequel enfin en Christ, le voile enfin en Christ. Comme l'Écriture est un tout, c'est assez, c'est merveilleux, parce que le voile prend enfin en Christ. Quand Christ est mort, que s'est-il passé? Trois évangiles le rappellent. Le voile du temple se déchirait du haut. L'entrée de Dieu est ouverte. Maintenant, on s'approche de Dieu. Jusque-là, on ne s'approchait pas. Jusque-là, il y avait un voile. Moïse avait eu ce privilège de parler avec Dieu, mais son visage rayonnait, mais il était un voile. Parce que les Juifs n'osaient pas s'approcher de lui. Il y avait de la crainte, il y avait de la peur. On n'approchait pas de l'Éternel. On n'approchait pas de l'Éternel comme nous approchons du Père. Nous nous adressons à Dieu maintenant, notre Dieu, notre Père. Comme tes enfants parlent à leur Père. On n'approchait pas de l'Éternel comme on s'approche du Père. N'est-ce pas? C'est un privilège nouveau. C'est une position nouvelle. À ce moment-là, il y avait le voile. Le voile est déchiré. Le voile enfin en Christ. Seulement, ce dont il parle, là, les Juifs ne se sont pas encore tournés vers Christ. Mais au verset 16, il voit, quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Mais pour nous, puisque nous avons, par la grâce de Dieu, cru au Seigneur Jésus, alors il n'y a plus de voile. Alors nous contemplons, au verset 17, le Seigneur et l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alors nous tous contemplons ta face découverte, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur dans l'Esprit. Contemplant la face découverte, la gloire du Seigneur. Il n'y a plus de voile pour cacher la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Gloire morale, gloire spirituelle. Nous verrons sa gloire. Et pour le moment, nous ne la voyons pas avec nos yeux physiques, parce que c'est une autre création. Mais nous verrons sa gloire. Nous verrons la gloire de Dieu dans la face de Christ. Et pour le moment, nous pouvons déjà avoir sa gloire, la gloire morale, la gloire du Seigneur. Nous lisons l'Écriture et nous voyons la gloire du Seigneur, la perfection du Seigneur. C'est ça la gloire. C'est la perfection, n'est-ce pas? C'est la perfection qui dépasse tout par la gloire du Seigneur. Bon, il y a des multitudes d'étoiles dans le ciel. La gloire du soleil, dans le 15 des Corinthiens. Il y a des multitudes d'étoiles. Nous ne voyons pas, on voit le soleil. Tout est éclipsé. Alors, comme le soleil est couché, alors on voit le soleil. Mais comme le soleil est là, on ne voit que le soleil. Nous verrons la gloire du Seigneur. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Et toutes les autres gloires, les nôtres, même celles de Paul avec sa couronne, que seront-elles la beauté de celle du Seigneur? Nous verrons la gloire du Seigneur comme nous voyons le soleil. C'est bien sûr, ce sont des images physiques, matérielles, pour parler de choses spirituelles qui nous dépassent et que nous ne pouvons pas imaginer. Mais pour le moment, nous pouvons contempler la gloire du Seigneur à face découverte. C'est-à-dire que, bon, c'est pas nos faces qui sont couvertes, qui pourraient l'être, mais c'est la gloire du Seigneur qui n'est plus couverte. Lorsque les Juifs s'approchaient de Moïse, type de Christ, il y avait un voile. Nous avons vu au verset 6 que c'est l'esprit qui vivifie, et l'esprit de vie, la vie a besoin de liberté. Et là où l'esprit, il y a la vie, et il y a la liberté. La vie peut se développer librement. Elle n'est pas encadrée par des règlements, elle se développe librement. Elle se développe dans le sens que Dieu veut, puisque c'est l'esprit de Dieu. Alors, elle se développe dans le sens que Dieu veut, tout simplement. Et c'est la liberté selon Dieu, la liberté d'accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur n'est-il pas un homme libre? Parfaitement libre. Nous voyons agir tout au long de sa vie, n'est-ce pas, aller de lieu en lieu faisant le bien. Qui a pu l'arrêter? Personne ne l'a arrêté. Il est allé. Même lorsqu'il est averti, tu vas à Jérusalem, et les Juifs veulent te faire mourir. tu te veilleras, bonjour encore, demain, après-demain, je vais. N'est-ce pas ? La liberté. Il agissait librement, et librement, il a dressé sa face vers Jérusalem, et il a donné sa vie, librement, il a donné sa vie. Il est entré dans la mort, il en est sorti du tombeau. Voilà l'homme parfaitement libre. Et quel est le caractère de cet homme parfaitement libre ? L'obéissance. L'obéissance parfaite. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et bien, si c'est la volonté de Dieu, qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté ? C'est la liberté. Accomplir la volonté de Dieu, c'est la pleine liberté. La soumission à Dieu, c'est la pleine liberté. Transposons ça dans notre existence de chaque jour, nous verrons, n'est-ce pas, que nous avons toute liberté de porter les caractères de Christ dans les différents milieux où nous sommes, avec l'environnement dans lequel nous sommes, avec les personnes au milieu desquelles nous vivons. Nous pouvons toujours porter les caractères de Christ. L'Esprit nous aidera si nous confions dans le Seigneur. L'Esprit nous donnera cette capacité de porter constamment les caractères de Christ. Et qui l'empêchera ? Qui m'empêchera d'aimer celui qui est à côté de moi, mon prochain, qui l'empêchera ? Personne. Il ne peut y avoir d'empêchement que venant de la chair qui est en nous. Je ne dirais même pas de Satan. Car si Satan ne trouve pas la chair active dans mon cœur, que peut-il faire ? Il est vaincu. C'est lorsque nous laissons la chair agir en nous, le vieil homme qui est en nous, si nous le laissons agir, alors Satan trouve le moyen de nous engager sur des chemins de propre volonté. Sinon, et s'il ne trouve pas de répondant dans nos cœurs, en Christ, il n'y a pas la chair. Il était l'homme né sans péché dans le sein de la Vierge, n'est-ce pas ? Il était fils de Dieu. Par le Saint-Esprit, il n'était pas comme nous, fils d'Adam, l'homme pécheur, il n'avait pas la chair. Il était tenté en toutes choses comme nous, à part le péché, il a toujours su résister, ce qu'Adam n'a pas su faire. Mais pour nous, il y a la chair en nous. Si nous n'attenons pas à sa place, qui est la mort, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec ses passions, si nous n'attenons pas à sa place, Satan trouvera toujours le moyen de nous entraîner sur des chemins de désobéissance à Dieu. La liberté, je le répète, c'est l'obéissance. La liberté, c'est l'obéissance à Dieu. Et nous sommes appelés à marcher dans cette liberté. Là où est l'esprit, là est la liberté. Et alors l'apôtre peut parler dans le chapitre 4 de ce que nous connaissons bien de ses propres expériences. Ayant ce ministère, comme ayant obtenu miséricorde, nous lassons le point. Et il avait estimé avoir reçu la grâce de Dieu pour ce ministère. Et il n'avait pas entrepris lui-même, il n'avait pas entrepris avec sa propre force, il n'était pas capable de poursuivre avec sa propre force, il lui fallait la miséricorde constamment de Dieu qui était là. Nous avons entièrement renoncé aux choses qui sont secrètes, ne falsifiant point la parole de Dieu, mais par la manifestation de la vérité. C'est un point qu'il nous faut souligner aussi. Nous risquerions de falsifier la parole de Dieu en pensant qu'elle plaira mieux si nous la présentons d'une façon quelque peu édulcorée, on dira, oui, elle va mieux être acceptée. Nous ne sommes pas chargés de faire accepter la parole de Dieu. Nous sommes chargés de la présenter. Présenter selon la vérité. Manifestation de la vérité. De la parole de Dieu. Bien sûr, par l'esprit, c'est-à-dire selon les besoins de ceux qui nous conduira à répondre aux besoins de ceux auxquels nous parlons. Mais ne cherchons pas à atténuer la parole de Dieu, à atténuer sa portée, à atténuer sa puissance sur les consciences. Ne cherchons pas à atténuer. Nous ferions du mauvais travail. Nous falsifierions la parole de Dieu. C'est ça, falsifier la parole de Dieu. C'est la présenter de façon à ce que elle ne gêne pas. Elle ne gêne pas celui auquel nous parle. Mais la parole de Dieu est gênante. Hein. Bien sûr, pour nous, elle est encourageante. Si nous sommes en bon état avec le Seigneur, son esprit est libre en nous, elle est encourageante. Mais quelquefois, est-ce qu'elle n'est pas gênante ? Est-ce qu'elle n'a pas été gênante dans notre vie, quelquefois ? Nous qui avons déjà de l'âge, est-ce qu'elle n'a pas été gênante ? Quelquefois, la parole de Dieu, est-ce qu'elle ne nous a pas donné des instructions, des directions, des indications que nous aurions bien voulu éviter, que nous aurions bien voulu rejeter ? Est-ce que quelquefois on n'a pas mis de côté pour pouvoir faire sa propre volonté ? Il faut être franc devant Dieu. Dieu sonde les cœurs, les reins, nous marchons là devant le Dieu véritable. Alors, eh bien, falsifier la parole de Dieu, c'est la ramener à notre mesure. Quand dit Dieu c'est mal, c'est mal. Quand dit Dieu c'est bien, c'est bien. Et si nous essayons de dire c'est pas si mal que ça, que c'est peut-être pas tellement bien, bien sûr, enfin, alors nous falsifions la parole de Dieu. L'apôtre ne falsifie pas la parole de Dieu, mais manifester la vérité. Et on peut dire au verset 3, nous recommandons nous-mêmes à toute conscience d'homme devant Dieu. N'est-ce pas, il se recommandait à la conscience, à toute conscience d'homme. Non pas parce que c'était un grand orateur, c'était justement pas un grand orateur. Non pas parce qu'il avait de la puissance en lui-même, puisque nous savons bien, n'est-ce pas, dans les chapitres suivants, il montre comment Dieu, le Seigneur, lui a donné une écharpe afin qu'il paraisse misérable. Il paraissait misérable. Et quelle puissance? La puissance de Dieu, tout simplement. Comme il le dit un peu plus loin, lorsque nous avons lu au verset 11, nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort, pour que la vie aussi de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Voilà ce qu'il désirait. C'était la puissance de la vie de Jésus qui se manifestait, non pas celle de Paul, celle de Jésus. C'est la puissance du Seigneur qui se manifestait, non pas la puissance de Paul, la puissance du Seigneur. Sa parole n'était peut-être pas bienveillante, puisqu'il peut parler dans la première aux Corinthiens, n'est-ce pas, qu'il n'est pas allé en sagesse de parole. Il n'avait pas appris les discours. Il n'avait pas appris à faire un grand discours, un beau discours. Ces lettres, d'ailleurs, ne sont pas des exemples dans la langue grecque. Quand on étudie le grec, on n'étudie pas les lettres de Paul. Luc, qui entre un peu dans la littérature grecque, mais l'aide de Paul n'entre pas dans la littérature grecque. Non. C'est pas un littérateur, c'est pas un discoureur, c'est pas un homme. Mais il parlait par la puissance de l'esprit. Et alors, par la puissance de l'esprit, alors voilà tout le résultat que Paul et les assemblées qui se rassemblaient derrière lui, tout simplement. La puissance de Paul. Puissance de l'esprit. Et il peut dire, il peut parler des incrédules, car il a rencontré des incrédules, et lui, il avait présenté la vérité. Au verset 4, verset 3, du chapitre 4, « Si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, dans lesquels le Dieu ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas pour eux. » Lui, il avait présenté la vérité, manifesté la vérité. Bon, certains ne croyaient pas. Que faire? C'est le Dieu ce siècle qui a voilé le Dieu. C'est pas que l'évangile est dévoilé. Alors, si on a une responsabilité dans la mauvaise présentation de la parole, bien entendu, si les gens ne croient pas, nous aurons une part de responsabilité. Et si nous présentons une parole falsifiée et que les hommes entraînés dans cette parole et que leur incrédulité demeure, nous aurons une part de responsabilité. Je pense que ça rejoint ce que je disais hier pour ceux qui construisent avec du bois du foin du chaume. Ça, c'est pas de Dieu, le bois du foin du chaume. C'est l'or, l'argent, les pierres précieuses qui sont de Dieu. Mais pas le bois du foin du chaume. C'est la terre. Alors, il y a une part de responsabilité, une perte. Mais l'apôtre, lui, avait présenté la vérité et il y avait quand même des incrédules. Oui. L'évangile était voilé. C'est pas que l'évangile était dévoilé, c'est pas que l'apôtre ait voilé l'évangile, mais pour eux, en eux-mêmes, en ceux qui écoutaient, il y avait un voile. Et le voile, c'est le Dieu de verset 4, dans lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. C'était le Dieu de ce siècle qui avait voilé leurs yeux. Alors, ils ne pouvaient pas recevoir la vérité. Ils ne pouvaient pas voir la gloire de l'Évangile. Le Dieu de ce siècle, ce sont toutes les pensées de ce monde, n'est-ce pas, toutes les façons d'agir de ce monde, tout ce qui dirige ce monde, tout ce qui entraîne les hommes de ce monde, n'est-ce pas, hélas. Dieu se sait qu'il peut bien avoir beaucoup d'influence parmi nous, et c'est très grave. Nous devons bien prendre garde. Prendre garde au Dieu de ce siècle. Prendre garde à ne pas agir comme les hommes de ce siècle. Le siècle, c'est le monde, c'est le monde actuel. Qui a toujours été à peu près le même. Mais au temps du Seigneur, lorsque le Seigneur régnera, le Dieu de ce siècle sera lié. Mais pour le moment, il n'est pas Dieu. Et pour le moment, il agit Et il agit constamment, il ne chôme pas. Et le Dieu ce siècle essaye toujours d'entraîner les chrétiens dans son sillage. C'est tout ce qui est dans ce monde. Aussi bien l'apôtre Jean peut dire, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. C'est pas seulement n'aimez pas le monde, d'une façon générale. C'est n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Donc les choses de détail dans le monde. On peut prétendre ne pas aimer le monde, de façon générale, le monde, le système du monde, le système politique, religieux du monde, on peut ne pas l'aimer, mais les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors nous devons prendre garde à cela. Et puis, puisqu'il parlait de la gloire, nous voyons au verset 6 quelque chose qui est très réconfortant pour nous, c'est le Dieu qui a dit que du sein des ténèbres, la lumière resplendit. On nous reporte là à la création, qui a reluit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu de la face de Christ. C'est Dieu, ce même Dieu, ce Dieu créateur, celui créateur qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, ce même Dieu qui a luit dans nos cœurs pour faire luire la connaissance de la gloire de Dieu, de la face de Christ. Il a fallu l'intervention du Dieu créateur pour que nous puissions connaître la gloire de Dieu dans la face de Christ. Si Dieu n'était pas intervenu en miséricorde et en grâce pour nous, nous aurions été comme les autres, sans Dieu et sans espérance. Nous n'aurions pas du tout vu la gloire de Dieu dans la face de Christ. Nous aurions vu comme beaucoup d'autres, un homme sympathique, un homme, un maître, un homme particulièrement bon, sans doute, mais un homme. Tandis que là, par la puissance du Dieu créateur qui a fait luire la lumière des ténèbres, alors par sa puissance agissant dans nos cœurs, nous avons la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Nous avons compris. Il nous a fait comprendre que Christ, c'est Dieu, et la gloire de Christ, c'est la gloire de Dieu. Connaissons la gloire de Dieu dans la face de Christ. Quel privilège, parce que c'est gratuitement que Dieu nous l'a proposé, cela, n'est-ce pas? Il va de notre côté, nous avons accepté, sans doute, et l'apôtre peut en parler aussi de cette façon-là. Quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi, un jour, il a plu à Dieu de révéler son Fils dans le cœur de l'apôtre, c'est sur le chemin de Damas, vous connaissez son histoire. Il peut dire aussi, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. Dieu lui a parlé. Il a obéi. Voilà, simplement. Dieu nous a parlé. Quel mérite a-t-on à obéir lorsque Dieu nous parle? Aucun mérite. Dieu parle. Dieu révèle son Fils à nos cœurs, ben nous croyons. Pourquoi est-ce que j'ai cru un jour que la veille je ne croyais pas? J'en sais rien. Il a bien fallu une action de Dieu pour que, en lisant quelques pages du Nouveau Testament, je dis ça, c'est la vérité, ça, c'est la parole de Dieu. J'aurais lu un an auparavant, même la veille, je n'avais pas cru que c'était la parole. Un jour, Dieu a révélé son Fils à mon cœur, je peux dire exactement comme Paul, quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous, nous sommes croyants. Il a plu à Dieu un jour de révéler son Fils en moi. Nous n'avons pas découvert tout seul. C'est Dieu qui nous l'a découvert. C'est lui qui a agi dans nos cœurs par sa puissance pour que nous voyions la gloire de Dieu dans la face de Christ. Et puis nous avons ce trésor dans des vases de terre. Ça va plus longtemps, on passe. Les vases de terre, c'est nos corps. Oui, nos corps. N'est-ce pas? Étant dans la tribulation, manière, on va lever les croix, perplexité, persécuté, abattu. L'apôtre, nous connaissons bien sa carrière, et combien de misères il a subi, combien d'oppositions, combien de fois il a été frappé, mis en prison. Il n'a connu que de la part du monde, il n'a connu que les coups de la prison et toujours le mépris, n'est-ce pas, mais voilà, c'était une vase de terre. À l'intérieur de la vase de terre, il y avait cette révélation extraordinaire de la gloire de Dieu dans la face de Christ. Et c'est ce qui le nourrissait, c'est ce qui nourrissait le nouvel homme qui était en lui, Il gardait les yeux fixés sur ce qui est éternel. Nous lisons les derniers versets, verset 15, verset 16. C'est pourquoi nous ne nous lassons point, mais si même notre homme extérieur dépérit, toutefois l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Notre légère tribulation d'un moment. Quand l'apôtre dit légère tribulation, nous nous souvenons de ce qu'il a souffert. Mais pour lui, c'est une légère tribulation parce que, en compensation, on peut dire, n'est-ce pas, d'un autre côté, il avait les yeux fixés sur le poids éternel de gloire. Oui, c'était la gloire était éternelle. Le mépris était passager. Ça a duré quelques années, le temps qu'il passe sur la terre. Mais après, la gloire est éternelle. Et au verset 18, nos regards n'étant pas fixés sur les choses qui se voient, mais sur celles qui ne se voient pas. Celles qui se voient sont pour un temps, celles qui ne se voient pas sont éternelles. Celles qui se voient, ben c'était Paul dans sa prison, c'était Paul dans le naufrage, c'était Paul avec les brigands, c'était Paul avec les faux frères, comme il le dit en un autre endroit, n'est-ce pas, c'était Paul constamment en combat avec les oppositions qu'il rencontrait. Ben, c'était les choses qui se voient, pour moi, elles sont pour un temps. Mais le temps vient où il entrera dans les choses éternelles et celles qui ne se voient pas au moment, mais elles sont éternelles. Et c'est ce qui encourage Paul. Nous ne nous lassons point. Et c'est ce qui doit nous encourager aussi. Que nos yeux soient fixés sur les choses éternelles, nos pensées tournées vers ces choses éternelles. Les choses éternelles, c'est le Seigneur qui vit éternellement. C'est lui la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie éternelle. Eh bien, si nos pensées sont tournées vers cette vie éternelle, alors les difficultés du moment, les incapacités, les misères physiques, et encore, nous ne connaissons pas la persécution, par la grâce de Dieu, nous vivons des temps tranquilles, pour ainsi dire. Et non, mais il y a quand même des infirmités, tout ça, mais c'est pour un temps, c'est pour un temps. Bientôt, le Seigneur vient. Bientôt, nous entrerons dans les demeures éternelles. Bientôt, nous le verrons tel qu'il est. Et en attendant, eh bien, nous devrions dire, comme l'apôtre, nous ne nous lassons point. Et nous ne lassons point. Regardons aux choses éternelles. Et alors, si nous contemplons cette gloire du Seigneur, il y aura un reflet sur notre visage, une transformation. Oh, on n'aura peut-être pas le visage qui luit comme celui de Moïse, qui était à s'adresser à un peuple terrestre. Et pourtant, si, il y aura une gloire, une sorte de, d'illumination. La commune des chrétiens, il y avait un visage sur lequel on voyait des hommes qui vivaient avec leur Dieu, une paix du visage, une joie du visage, une tranquillité des gens qui traversaient le monde et même étant fort malades, étant constamment en but à toutes sortes d'adversités. Et puis voilà, ils marchaient tranquillement leur chemin, les yeux fixés sur Jésus. Et il y avait un reflet sur eux de cette contemplation du Seigneur. Et bien sûr, nous ne le verrons pas nous-mêmes. Moïse ne savait pas que son visage. Nous ne le verrons pas nous-mêmes, c'est pas la peine de chercher à faire luire son visage. Et c'est pas la peine de se demander si les autres voient que son visage, oui, la peine. On ne le verra pas. Moïse ne savait pas son visage. C'est quand il avait parce qu'il avait parlé avec lui. Et Moïse ne se souciait pas de savoir si son visage disait. Ce qui lui importait, c'était de parler avec lui. En tout cas, si nous parlons avec le Seigneur, que nous pouvons voir face découverte, n'est-ce pas, nous pouvons voir la gloire face découverte, il y aura aussi un reflet dans notre vie quotidienne. Car c'est là le témoignage, le quotidien. Hein. Ce n'est pas le discours qu'on peut faire ici et là, c'est le quotidien, mais c'est le témoignage. Et bien, il y aura un reflet. Un reflet. Nous ne verrons pas. Mais il y aura quand même un reflet. Les autres le verront peut-être, mais nous ne le verrons pas. Et je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes, et c'est un milieu aussi où on pousse les hommes à se contempler, à se mesurer, à se peser, disant, voyons, est-ce que j'ai fait des progrès, nous ne sommes pas appelés à porter notre regard sur nous-mêmes. Quand nous nous regardons nous-mêmes, Nous faisons comme s'il est écrit dans l'épître de Jacques, l'homme qui se regarde dans un miroir, et il voit sa face naturelle. Il est pas brillant, sa face naturelle. Quand je regarde moi-même, je vois ma face naturelle. Le naturel, c'est la chair qui est en moi, n'est-ce pas? Oui. Alors, détournons le regard de nous-mêmes. Portons-nous sur Christ. Et quand on regarde Christ, eh bien, on est transformé.
Divin de nos travaux dans la maison du Père, les versets 4, 5 et 6 du 76.